On a un message qui ne sera pas long, mais qui sera puissant et qui va changer votre vie ce matin. Et avant de recevoir la parole, on va faire notre déclaration qu'on aime faire, parce que je crois que la Bible est inspirée de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas juste un livre, mais c'est vraiment un livre qui contient les pensées de Dieu, la volonté de Dieu est révélée dans ce livre, et tout ce qui est dit et écrit est inspiré de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle va nous transformer. Donc, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à prendre vos Bibles. Sinon, il y a une feuille à l'intérieur de votre bulletin avec presque tous les versets de 1 Pierre chapitre 4 que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et on va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole vivante de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Je serai pour tout danger au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, 1 Pierre chapitre 4, on va aller lire quelques versets de la parole vivante aujourd'hui. Et le titre du message, c'est « Prenons notre place dans l'histoire ». Combien de vous, vous croyez que nous vivons dans un temps assez intéressant et même stratégique dans l'histoire de l'humanité? On regarde, on peut écouter les nouvelles, on peut lire dans les journaux et on peut voir que le monde est vraiment sur le point de voir les événements qui peuvent être même catastrophiques, qui peuvent être vraiment bouleversants, mais toutes ces choses que nous voyons, on aurait pu voir ici il y a des centaines d'années. Amen. Toutes les choses que nous voyons qui se passent dans le Proche-Orient, en Israël, etc., ce sont des choses qui ont été prophétisées il y a des centaines d'années, même des milliers d'années. Donc, pour nous qui sommes dans le Seigneur, qui connaissons la volonté de Dieu, qui connaissons la parole de Dieu, nous ne devrions pas être surpris, nous ne devrions pas être bouleversés, on ne devrait pas avoir peur, on ne devrait jamais, jamais craindre quoi que ce soit, parce que le Seigneur est en nous, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui est le maître de l'univers, il est notre maître aussi. Amen. Mais quand même, nous vivons dans un temps historique. Nous vivons à la fin d'une âge. Et ça, je peux bien que peut-être dans 2 semaines même, on va commencer une série sur le fin des temps et les choses de même, si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse d'avoir quelques réponses à quelques questions et puis d'amener des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur pour écouter aussi, c'est une chose qui travaille dans mon cœur depuis plusieurs mois et je crois vraiment que c'est le temps. Mais cette semaine et peut-être la semaine prochaine, on a quelques autres choses pour nous préparer pour cette série sur les fins de temps. Mais on est dans une période critique dans l'histoire de l'humanité. Jésus revient bientôt. Amen. Quand on dit bientôt, on sait qu'avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Mais quand même, ça fait au-dessus de 2000 ans depuis que Jésus était ici sur la terre. Amen. C'est-à-dire pour lui, c'est 2 jours qui sont passés. Mais pour nous, c'est 2000 ans. Mais ce n'est pas grand temps. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui vont se passer. Et nous ne sommes pas ici par hasard. Nous avons un rôle à jouer. Vous, en tant qu'individu, vous avez un rôle à jouer dans cette période critique dans l'histoire de l'humanité. Mais on a besoin de prendre notre place dans l'histoire. Mais peut-être vous dites, mais qui suis-je? Que puis-je faire? Je n'ai jamais fait grande chose dans la vie. J'ai même pas une grande éducation. J'ai pas fait grande chose. Je ne sais pas quoi faire. Laisse-moi vous dire une chose. Vous êtes un candidat idéal pour prendre une place stratégique dans les fins des temps. Amen. On regarde, même le verset que nous allons lire tantôt sont écrits sous l'inspiration de l'Esprit par l'apôtre Pierre. Pierre n'était pas un érudit, c'était pas un homme religieux, c'était pas un homme avec beaucoup d'instructions, c'était un pécheur que Dieu a changé un pécheur d'homme. Amen. C'était un homme simple, mais Dieu a choisi Pierre pour être vraiment une colonne dans son Église. Et Dieu nous a choisis. Dieu aime choisir les choses folles pour confondre la sagesse des hommes. N'est-ce pas? Pour moi, c'est une parole très encourageante. Et vous? Mais Dieu a choisi les choses folles pour confondre la sagesse des hommes. Mais Dieu nous donne les instructions précises. Ce ne sont pas mes instructions, mais ce sont les instructions que Dieu nous donne pour comment vivre dans les fins des temps et comment prendre notre place dans l'histoire. Donc, on va lire 1 Pierre, chapitre 4. Je vais lire dans la Bible française courante. Et on va commencer à verset 1. Puisque le Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même disposition d'esprit, car celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Ça, c'est déjà intéressant, n'est-ce pas? Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. En effet, vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux païens. Vous avez vécu dans le vice, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries et les abominables cultes des idoles. Et maintenant, les païens s'étonnent de ce que vous ne vous livriez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite. Et ils vous insultent. Mais ils auront à rendre compte à leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. Voilà pourquoi la bonne nouvelle a été annoncée, même aux morts, ainsi bien que jugés quant à leur existence terrestre, comme tous les humains, ils ont maintenant la possibilité, grâce à l'Esprit, de vivre la vie de Dieu. Je veux souligner cette dernière partie. Nous avons, grâce à l'Esprit, la possibilité de vivre la vie de Dieu. On peut vivre la vie de Dieu au lieu de vivre notre petite vie égoïste, au lieu de vivre une vie du péché. N'est-ce pas merveilleux que nous avons le choix maintenant? On n'est plus obligé de vivre comme les pécheurs, mais on peut vivre comme les enfants de Dieu. On peut vivre la vie de Dieu. Et laisse-moi vous annoncer une chose, c'est que la vie de Dieu est une bonne vie. Combien de vous avez découvert que c'est mieux, c'est même plus agréable de vivre pour Dieu que de vivre pour soi-même? Amen, c'est un peu faible. Est-ce que vous avez remarqué que c'est mieux de vivre pour Dieu? Amen. C'est parce qu'au commencement, on lit dans ce verset qu'il faut que nous soyons armés pour souffrir selon la chair. Donc, au début, on dit, oh, la vie chrétienne est dure, c'est difficile. Celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Ça, c'est vrai. Et il y a beaucoup de confusion. Notre sujet, c'est peut-être un jour, quelqu'un m'a même demandé si on pourrait faire une série sur la souffrance dans la vie des chrétiens. Et laisse-moi vous dire que quand Dieu dit qu'il faut souffrir dans la chair, il ne parle pas de souffrir avec une maladie. C'est pas avec un tumeur au cerveau. C'est pas avec des problèmes de santé, les choses méchantes. Non, 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 pas du tout, parce que Dieu est un Dieu de paix, Dieu est bon, Jésus est venu pour nous donner la vie, c'est le voleur, c'est Satan qui vient pour détruire, c'est Satan qui vient pour rendre malade. Vous êtes d'accord? Mais quand même, nous allons souffrir dans la chair, dans quel sens? Parce que notre chair a des désirs charnels qui veut faire les choses contre la volonté de Dieu. Et des fois, quand nous prenons notre place dans l'histoire, tous les autres dans notre entourage ne seront pas contents. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Même Pierre, quand il a pris une décision pour marcher avec Jésus-Christ, l'apôtre Paul, quand il a décidé de marcher avec Jésus, tout le monde n'était pas content. Le monde n'avait pas un parti pour célébrer. Oh, regarde ça. Non, surtout les personnes religieuses, ils étaient fâchés et ils ont fait tout leur possible pour faire souffrir Pierre et Paul et les autres. Ça, c'est une chose, de souffrir la persécution. C'est une chose, hein, de faire la volonté de Dieu et même notre chair est en train de dire, non, j'aimerais mieux faire autre chose. Mais laisse-moi vous dire, celui qui a souffert dans la chair, dans ce sens, a cessé de pécher. Parce qu'il ne vit plus pour lui-même, il vit la vie de Dieu. Amen. Et il y a une joie. Il y a un bonheur qui vient dans le cœur quand on fait la volonté de Dieu, malgré ce que les autres disent et malgré ce que les autres pensent. Et c'est une vie extraordinaire. Mais il y a quelques petites choses qu'on peut remarquer et que je veux souligner, ce sont dans les choses que j'ai marquées dans vos notes, dans les premiers 6 versets de 1 Pierre. La première chose qu'on remarque, c'est que notre temps ici sur la terre est limité. Savez-vous que c'est une chose bien importante de se rappeler du fait que nous ne sommes pas ici sur la terre éternellement. Nous sommes ici, nous sommes les pèlerins, on pourrait dire, nous sommes les étrangers ici sur la terre. La Bible dit que notre cité à nous, c'est dans les cieux. Amen. Et notre vie terrestre est une vie passagère qui sera bientôt terminée. Même si vous vivez 120 ans, laisse-moi vous dire, ce n'est pas grand-chose comparé avec l'éternité. Vous êtes d'accord? Votre vie ici sur la terre est limitée. Et si nous allons prendre notre place dans l'histoire de l'humanité, si nous allons faire ce que Dieu nous a destiné de faire, si nous allons accomplir et réaliser les projets que Dieu a formés sur nous individuellement et collectivement comme une église locale, il faut absolument qu'on vive avec cette réalisation que ma vie sur la terre est temporaire. Comme on dit, ma vie sur la terre est temporaire. Mais votre vie sur la terre est importante. Amen. Nous n'avons pas une éternité pour faire la volonté de Dieu. Nous avons quelques années pour faire la volonté de Dieu et on a besoin de le faire. Une autre chose que nous voyons dans ce passage, c'est que notre vie en tant que chrétien ou chrétienne doit être différente. Votre vie est supposée d'être différente que la vie des non-croyants. Vous êtes d'accord? Encore, c'est pas moi. Moi, je lis la Bible ce matin. 1 Pierre, chapitre 4. C'est un chapitre inspiré de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. La Bible, c'est Dieu qui me parle. N'est-ce pas? Ici, on voit que notre vie ici sur la terre est limitée, mais notre vie est supposée d'être différente. Nous avons passé assez de temps, selon ce passage, dans la débauche. On a déjà passé assez de temps. On a gaspillé assez de temps dans le péché. N'est-ce pas vrai? Et combien de vous êtes désolés même de toutes les années que vous avez gaspillées dans le péché? Laisse-moi vous dire, c'est pas bon qu'est-ce qu'on a fait, mais la grâce de Dieu est là. Et c'est par la grâce de son esprit qu'on peut vivre la vie de Dieu maintenant. Mais qu'est-ce qui est de valeur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent le message de Christ et qui acceptent Jésus comme sauveur et comme Seigneur, mais ils veulent continuer à vivre comme ils ont toujours vécu, au lieu de faire un changement. Au lieu de se repentir, au lieu de changer de direction, ils vont continuer à vivre comme ils ont toujours vécu, en disant, mais moi, je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Laisse-moi vous dire une chose. Vous n'êtes pas un pécheur sauvé par la grâce. Vous étiez un pécheur sauvé par la grâce. Mais maintenant, vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes transporté du royaume des ténèbres. Vous êtes né de nouveau dans un autre royaume. Et vous appartenez maintenant à Jésus-Christ lui-même. Amen. Est-ce que votre vie appartient à Jésus? Si vous appartenez à Christ, vous êtes supposé de vivre pour Christ et votre vie est supposée d'être différente. Le monde devrait remarquer que nous sommes les chrétiens. Quelqu'un a chanté un chant dans les années 70, je m'en souviens de ce chant, et il y avait un chant très populaire parmi les chrétiens aux États-Unis dans les années 70, et le chant, c'était un genre de ballade qui disait: si on pourrait être arrêté pour être chrétien, est-ce qu'il y aurait assez d'évidence pour vous condamner? Si c'était illégal de vivre pour Jésus-Christ, et si quelqu'un ferait une enquête et pour poser la question à vos voisins, à vos collègues au travail, aux personnes avec qui vous vivez, les personnes qui vous connaissent, est-ce que les gens qui vous connaissent aurait assez d'informations pour vous condamner pour être chrétien? Bonne question, n'est-ce pas? Oh, lui, non, je pense pas. Il parle jamais de Jésus. Lui, oh, j'ai jamais vu une Bible chez lui. Non, non, non. Oh, non, pas ce gars-là, tu devrais entendre la façon qu'il sacre. Ça se peut pas qu'il est chrétien. Non, 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 lui, il est sauve et sain. Non, il faut pas lui mettre dans la prison. C'est une bonne question. Moi, je prophétise pas qu'on va être mis en prison pour notre foi en Jésus-Christ, mais dans le passé, dans les siècles précédents, c'était le cas, n'est-ce pas? On voit dans les Actes des Apôtres, les gens ont été persécutés et mis en prison à cause de leur foi en Jésus-Christ. Mais voici la question qu'il faut qu'on se pose ce matin. Est-ce qu'il y aurait assez d'évidence pour nous condamner pour notre foi? Si le monde ferait une enquête, j'espère bien qu'il n'y aura pas de questions. Que les gens diraient, « Hey, je connais un chrétien, il habite là-bas. » Parce que lui, il en parle toujours. Lui, il aime les gens, il prêche toujours la bonne nouvelle, et il lit sa Bible, et on sait sans aucun doute que c'est un chrétien. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Donc, notre temps ici sur la terre est limité. Notre vie en tant que chrétien doit être différente. Et un jour, nous rendrons compte à Dieu pour notre vie. Vous savez, votre vie ne vous appartenait plus à vous-même. Un jour, vous allez être face à face avec Jésus-Christ, moi aussi. Et plus on s'approche des fins des temps, plus on voit le jour qui s'approche, plus on devrait vivre pour Jésus comme jamais auparavant. Amen. Il y a des choses qui s'en viennent sur la terre qui ne seraient pas drôles, qui ne seraient pas beaux à voir. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, on peut être dans la joie, on peut vivre dans la lumière comme il est dans la lumière, on peut être protégé. Amen. Quand tous ceux autour de nous sont en train de tomber, on peut réclamer le psaume 91, qui dit que même si 1000 tombent à mon côté ou 10 000, ça ne viendra pas à moi. Amen. Laisse-moi vous dire, c'est sérieux qu'est-ce que je dis ce matin. Je veux pas que ça soit trop sombre, mais quand même, je veux qu'on se réveille et qu'on prenne notre place dans l'histoire. Amen. Dieu veut se servir de nous pour faire des exploits. Dieu veut se servir de vous pour faire des miracles, pour imposer les mains aux malades, pour amener des personnes, des familles et des personnes, des villes peut-être entières, même peut-être des pays, à Jésus-Christ. Amen. Savez-vous que ça se peut qu'il y a des personnes assises dans cette salle qui vont aller en Outre-mer un jour et qui vont amener des pays entiers à Jésus-Christ. Amen. Mais c'est le temps de prendre notre place dans l'histoire. Et on ne peut pas vivre comme on a toujours vécu et prendre notre place dans l'histoire. Amen. Il faut changer. C'est ça la parole que j'avais dans mon cœur. Les vies changées, les vies transformées. On ne parle pas juste d'un petit changement, on parle d'un changement au complet. Il y a d'autres personnes qui ne vont jamais mettre leurs pieds sur le sol d'un autre pays, mais laisse-moi vous dire, ils vont changer leur ville, ils vont changer leur famille, ils vont changer leur usine, là où ils travaillent. Amen. Gloire à Dieu. Et peu importe qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est important que vous le fassiez. Amen. Et c'est important pour vous de le faire. Hallelujah. Gloire à Dieu. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas parlé en français, mais ça va. Hallelujah. On va continuer. Verset 7 de 1 Pierre, chapitre 4. Verset 7. Voici quelques versets qui vont nous réveiller ce matin. C'est encore la Bible qui dit, « La fin de toutes choses est proche. » Il y a longtemps depuis que ces paroles ont été écrites, n'est-ce pas? Si la fin de toutes choses était proche, il y a presque 2000 ans. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la fin de toutes choses est proche? C'est encore plus proche aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. C'est beaucoup plus proche. Et on a les signes, on a les choses. Comme j'ai dit, dans quelques semaines, on va faire une série là-dessus. Et ça va être vraiment bon et éclairant. Mais laisse-moi vous dire tout simplement que l'Esprit de Dieu a dit, et l'Esprit de Dieu dit aujourd'hui, la fin de toutes choses est proche. Tout le monde dit, la fin de toutes choses est proche. Prochaine chose que Dieu dit, vivez donc. Il ne dit pas, cachez-vous donc. Allez vite chez l'épicerie et achetez autant de nourriture non périssable que possible et cachez-vous quelque part. La fin de toutes choses est proche. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la mentalité que Dieu veut que nous ayons. La fin de toutes choses est proche. Vivez donc. Et qu'est-ce qu'on va vivre? On va vivre la vie de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vivez donc d'une manière raisonnable. Et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns des autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance pour toujours. Amen. La fin de toute chose est proche. Vivez donc d'une manière. Quelle manière? Voici la manière qu'il faut vivre. Trois choses qu'il faut faire. Première chose, si on va prendre notre place dans l'histoire, prenez votre place devant son trône pour prier avec vigilance. Prenez votre place devant son trône. Il a dit ici dans ses paroles, « Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. » Croyez-vous que la prière est efficace? Il y a des choses que nous avons besoin de prier. Et je ne vais pas prendre le temps aujourd'hui pour enseigner sur la prière. On l'a déjà fait dans le passé. Ceux qui ont suivi les cours le vendredi soir, on a déjà fait un cours sur la prière efficace, la prière victorieuse. Mais laisse-moi vous dire une chose. Si Dieu veut accomplir quelque chose sur la terre, il faut que quelqu'un prie. Combien de vous croyez et vous savez, selon la Bible, que même si Dieu veut faire quelque chose, il ne peut pas le faire à moins que quelqu'un prie. Ça, c'est un principe biblique que je n'ai pas le temps d'enseigner aujourd'hui, mais c'est la vérité. C'est pourquoi Dieu a dit, Jésus a dit à Matthieu chapitre 18, verset 18, « Ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. » Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un rôle important à jouer dans l'accomplissement de son plan ici sur la terre, dans la prière. Amen. Il y a des choses que Dieu veut faire, que nous pouvons délier sur la terre. Il y a des choses que Satan veut faire sur la terre, qu'on peut retenir aussi. Amen? Vous savez, il y a des personnes, combien de vous vous rappelez que, je m'en souviens de l'année, mais en Oklahoma City, il y avait la bombe qu'ils ont tué peut-être 150 personnes, la grosse affaire. Est-ce que vous vous rappelez? Un acte de terrorisme. Mais laisse-moi vous dire une chose, il y avait des personnes qui avaient à cœur de prier, mais dans l'esprit, c'était tellement fort, c'était tellement lourd, qu'ils savaient qu'il n'y avait pas assez de chrétiens qui étaient au diapason de l'esprit, assez de gens qui ne priaient pas, qu'ils n'étaient pas capables, juste tout seul, de l'arrêter. Il y a des choses comme ça. On a vu le 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé. Et je ne veux pas vous faire peur. Mais il y a bien des prophéties qui ont été données même dernièrement, que si l'Église ne prie pas, une chose beaucoup, beaucoup pire va arriver le mois de mars 2003. On est quoi aujourd'hui, le 1er mars? C'est pas pour vous faire peur. Et il y a d'autres choses que même j'ai entendues la semaine passée, des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect, qui ont prophétisé les choses qu'ils ont reçues dans l'esprit pour la fin du mois de mars, que je ne veux pas même pas le dire, parce que c'est catastrophique. Mais, pourquoi est-ce que le Seigneur dit ces choses? Souvent, c'est parce qu'il sait que si l'Église prie, ces choses ne vont pas arriver. Il y a certaines choses qui doivent arriver, mais il y a d'autres choses qu'on peut arrêter dans l'esprit. Amen? Soyez sobres, veillez, priez. Prenez votre place devant le trône. De quel trône? Le trône de grâce. On peut approcher de son trône de grâce pour prier avec assurance. On peut intercéder avec assurance. Et si on fait notre job comme il faut, ça se peut que vous ne saurez même pas, avant d'être rendu au ciel, qu'est-ce que vous avez accompli. C'est comme un pompier qui fait bien sa job. Quand les pompiers font leur job comme il faut, si un feu prend dans un bâtiment de 20 étages, quelque part un gratte-ciel, et un feu prend dans un appartement, et les pompiers arrivent dans 3 minutes comme ils sont supposés de faire, et ils éteignent le feu, et personne n'est blessé, il n'y a rien qui se passe, on ne sait même pas qu'il y avait un feu. Les nouvelles n'en parlent pas, vous êtes d'accord? Mais s'ils arrivent 20 minutes plus tard, et toute la bâtisse est en feu, il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont blessées ou tuées, là tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça dans la prière. Quand nous prions comme il faut, des fois nous arrêtons les choses et personne ne va savoir et vous-même, vous ne saurez même pas que vous avez sauvé les vies, vous avez sauvé les désastres. Amen. Donc, prions. Prenons notre place devant. Nous vivons. La fin de toutes choses est proche. Il y a des choses qui s'en viennent sur la terre et l'Église a besoin de prier. Soyez là mercredi soir parce que nous allons louer, adorer et prier. Et ça serait de valeur d'avoir les chrétiens qui disent « Ah, mais tu sais, l'émission que j'aime tellement est à la télévision ce soir, donc j'aimerais mieux regarder ça. » Et ils ne prennent pas leur place devant le trône, ils ne prient pas, et puis les choses arrivent, et ensuite ils disent « Oh, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait quelque chose? Pourquoi est-ce que tu n'as pas sauvé ces personnes? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait une intervention? » Et le Seigneur va répondre « J'ai essayé. J'ai fait mon possible. J'ai mis dans le cœur de mon peuple d'aller prier, mais ils ne sont pas allés. Ils ont regardé la télé à place. » Est-ce que je suis assez direct ce matin? Alléluia! La fin de toutes choses est proche. Il faut vivre. Vivez donc de telle manière. Quelle manière? Prenez votre place devant son trône pour prier avec vigilance. Amen. Numéro 2, prenez votre place dans sa famille pour aimer sans hypocrisie. C'est ça que la parole de Dieu dit. Il dit, avant tout, et ça c'est la chose le plus important, avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur. Et j'aime tellement la parole vivante qui dit, l'amour ne supporte pas les masques. Que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité, haïssez le mal, ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien, attachez-vous-y fortement. Laisse-moi vous dire, les ténèbres deviennent de plus en plus noires ici sur la terre. Il y a de plus en plus des choses qui ne sont pas bien sur la terre. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Et vous savez pourquoi c'est tellement important que dans ce temps, dans les fins des temps, quand la fin de toutes choses est proche, que nous nous aimons ardemment avec un amour sincère, sans hypocrisie. Le mot hypocrite, c'est le mot qu'ils ont utilisé pour les acteurs, ceux qui avaient les masques. Et c'est pas ça qu'on veut. À l'église, c'est bien facile de se donner la main et dire bonjour, je t'aime. Mais qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous pensez de cette personne quand vous êtes à la maison? Quand vous sortez de l'église, est-ce que la masque disparaît? Et puis, oh, mais franchement, est-ce que tu as vu la façon qu'il était, Non. Ça, c'est pas le vrai amour. Dieu veut, dans ces derniers temps, qu'on s'aime avec un amour qui est authentique, un amour qui est sincère, un amour qui est ardent. Amen? De plus en plus, nous aurons besoin les uns les autres. Amen. Quand les choses commencent à arriver sur la terre, vous serez content d'avoir les frères et les sœurs en Jésus-Christ. Amen. Et vous ne voulez pas vous trouver dans une place où, hey, mais vous savez, j'ai parlé dans le dos de mon frère, j'ai parlé dans le dos de... Non. Ça donne place au diable. Et on va fermer la porte au diable, on va marcher dans l'amour authentique et sincère. C'est pourquoi la Bible dit que de ne pas abandonner notre assemblée, et surtout, plus vous voyez le jour s'approche, plus on est supposé d'être ensemble. Amen? C'est pourquoi c'est marqué, avant toute chose, aimez-vous les uns les autres, ardemment, avec un amour sincère. Et puis c'est marqué, soyez hospitaliers. C'est pratique. On a besoin de passer davantage de temps ensemble. Amen? Prenez le temps de prendre le téléphone et de dire « Hey, aimerais-tu venir chez moi prendre un café? » Soyez hospitaliers. Prenons le temps ensemble parce que plus notre relation est enracinée et solide en Jésus-Christ, plus on serait capable de prendre notre place dans l'histoire. Et c'est ça que le monde va voir. Le monde va voir parce que la Bible dit que dans les derniers temps, l'amour de plusieurs va se refroidir. Le monde va devenir de plus en plus froid, les gens vont devenir de plus en plus égoïstes. Mais quand l'Église de Jésus-Christ marche davantage dans l'amour, et quand nous sommes désintéressés, et quand nous sommes en train de s'aimer avec un amour authentique, le monde va voir, il y a de l'espoir. Amen? Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et troisième chose, prenez votre place dans son corps pour servir avec efficacité. Moi, j'ai pris ces trois choses directement de notre texte. Il a dit qu'il faut être raisonnable et garder l'esprit éveillé pour prier. Il a dit qu'avant tout, il faut s'aimer avec un amour authentique. Et ensuite, c'est marqué que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de multiples dons divins. Et en Éphésiens, chapitre 4, verset 16, la parole de Dieu dit, « C'est grâce à lui que le corps forme en tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. » Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, tout le monde dit chaque partie, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Prenez votre place devant le trône pour prier. Amen. Prenez votre place dans la famille pour aimer, sans hypocrisie. Et prenez votre place dans le corps. L'Église est appelée le corps de Jésus-Christ. Peut-être vous êtes une main. Peut-être vous êtes en pied. Mais si mon cœur veut faire quelque chose, si je veux aller jouer avec mes enfants, si je veux travailler, si je veux courir, c'est pas drôle si ma jambe décide de ne pas fonctionner. Vous êtes d'accord? Ceux qui ont eu des problèmes avec l'arthrite ou avec, avec les muscles qui font mal, vous savez qu'est-ce qui ont des membres qui ne fonctionnent pas. Vous savez combien c'est frustrant de vouloir marcher et ça ne marche pas. Amen? Vous savez qu'est-ce que c'est de vouloir prendre quelque chose et la main est trop faible pour le prendre. Et c'est pourquoi si nous allons prendre notre place dans l'histoire, ce n'est pas suffisant pour la main gauche et le pied gauche de dire, « Me voici, Seigneur, envoie-moi où tu veux que... » Mais la main droite et le pied droit sont toujours au lit, ça ne marche pas. Il faut qu'on se réveille, vous êtes d'accord? On ne peut pas laisser la main droite et le pied droit dans le lit et puis aller faire grand-chose. C'est le fin des temps. Nous avons une chose à faire. Nous avons une vision en tant qu'Église de faire un impact sur la ville de Drummondville, la province de Québec, la francophonie et au-delà par la puissance de la bonne nouvelle. Mais il faut que chaque partie, chaque membre amène son soutien. Amen. Vous avez quelque chose à faire. Vous avez un don. On a parlé des 4 T il n'y a pas longtemps. Votre temps, vos talents, votre trésor et votre temple. Il faut présenter tout votre être devant le Seigneur en disant, « Seigneur, prends-moi. Sers-toi de moi. Je veux te servir avec efficacité. » Amen. Quand on travaille ensemble, c'est facile. N'est-ce pas? C'est facile. Une personne seule va s'épuiser, mais tout le monde ensemble, le travail est facile. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai à dire là-dessus, mais je vais terminer là. Et la semaine prochaine, on peut continuer un peu dans cette direction. Et dans les semaines à venir, on va commencer cette série sur la fin des temps et répondre aux questions que les gens ont sur... Ça ne serait pas une étude profonde d'Apocalypse, mais ça serait on va toucher les choses essentielles concernant l'enlèvement de l'Église, concernant l'Antéchrist, concernant la marque de la bête, les choses de même que tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on va parler de ces choses, pas juste pour donner des frissons, mais on va parler de ces choses pour vous équiper, pour savoir comment vivre dans ce dernier temps, dans le temps qui nous reste ici sur la terre. Comment vivre? Parce que nous n'avons rien à craindre. Amen. Nous n'avons rien à craindre. Nous avons un futur qui est merveilleux. Nous avons un futur ici sur la terre même qui est merveilleux. Le futur pour l'Église est glorieux. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ici sur la terre avant que Jésus vienne? C'est merveilleux. Nous allons voir la plus grande manifestation de puissance, de pouvoir, des miracles, des signes et des prodiges qu'on n'a jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Prenons notre place dans l'histoire. Amen. Prenons notre place dans l'histoire. Mais si on va prendre notre place dans l'histoire, il faut changer. Amen. On va se lever debout, on va prier. Alléluia. Alléluia. On va se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Même à l'Église. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que la fin de toutes choses est proche. Combien d'années est-ce qu'il nous reste? On ne sait pas.
Mais qu'est-ce que je sais, c'est que la fin de toutes choses est proche. Comment est-ce que je peux le savoir? Parce que la Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Amen. Et même les apôtres. Vous savez, la plupart des apôtres, ils s'attendaient que Jésus revienne pendant leur vie. S'ils auraient su qu'on allait vivre encore sur la terre et l'Église allait continuer pour 2000 quelques années plus, ils auraient été, je suis sûr, ils auraient été étonnés. On est vraiment dans un temps critique, mais un temps merveilleux. Et ce n'est pas un temps d'avoir peur. Ce n'est pas un temps d'être nerveux. Non, c'est un temps de s'approcher de notre Seigneur, de s'approcher de notre Maître, de demeurer en Lui, de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ, de connaître le plan de Dieu pour notre vie personnelle et pour l'Église collective, et d'aller de l'avant, de courir vers le but comme jamais auparavant. Amen. C'est un temps glorieux et merveilleux. Je suis content de vivre aujourd'hui. Oh, que c'est merveilleux. J'aurais pu être né dans un autre siècle. Dans le temps des chevaliers, le Moyen-Âge. Oh, que je suis content de vivre en 2003. Que je suis content de vivre en 2003 et de savoir que nous sommes dans une période où la fin de l'âge de grâce, l'âge de l'Église va bientôt prendre fin pour qu'on puisse commencer une nouvelle âge. Pas selon le monde. Le monde parle toujours de nouvel âge. Mais la Bible en parle aussi. Mais quand la Bible en parle, c'est un âge où Jésus est Seigneur, où Jésus règne, où Jésus est assis sur le trône, où Jésus va régner en équité et en majesté, assis sur le trône. Et un âge où nous allons régner avec Lui, en tant que son Église et ses enfants. N'est-ce pas merveilleux? Père, au nom de Jésus, merci. Merci Seigneur. Seigneur, tu sais que ce n'est pas tous les jours qu'on parle de ces choses, mais j'ai vraiment dans mon cœur que c'est le temps d'en parler. C'est le temps d'en parler. C'est le temps pour l'Église de se réveiller, de prendre sa place dans l'histoire. Pour chaque individu, mais aussi pour cette Église locale, la vie comblée, c'est le temps pour nous de prendre notre place dans l'histoire. Père, au nom de Jésus, merci. Parce que la fin de toutes choses est proche, nous pouvons vivre donc d'une manière différente. Avec tous les yeux fermés, avec toutes les têtes courbées, on va prendre juste une minute pour donner une invitation, comme on fait à chaque dimanche matin. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui dirait, « Pasteur, je crois en Jésus. J'ai toujours cru en Lui, peut-être. » Peut-être vous êtes ici et depuis votre enfance, vous avez cru en Jésus. Comme moi, j'ai toujours cru en Lui. J'avais dans ma tête une connaissance intellectuelle de Jésus, mais je n'avais pas une connaissance personnelle. Et peut-être vous êtes ici, vous dites, je crois en Jésus, je crois qu'il est mort pour moi sur la croix, je crois qu'il est ressuscité des morts, et je crois qu'il est Seigneur des Seigneurs. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Et aujourd'hui, tu peux prendre une décision de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour mériter la vie éternelle. C'est un don gratuit. Mais avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lèverait la main en disant, « Aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux partir d'ici sachant sans aucune doute que j'ai une place réservée pour moi au ciel, que mes péchés sont pardonnés et que je suis enfant de Dieu. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main ce matin en disant, « Prie pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. » Je ne sais pas, peut-être tout le monde ici est déjà dans la famille. Alléluia. Pas quelqu'un? OK. Alléluia. Pas quelqu'un d'autre? Alléluia. Merci, Père Céleste. Merci, Père. Est-ce que quelqu'un lèverait la main ce matin en disant, « J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de votre aide. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui connaît Jésus, mais toi, tu as besoin peut-être de redédier ta vie à Lui. Tu n'es plus en communion avec Lui comme avant. Ou peut-être tu as besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence initiale de parler une autre langue. C'est là où se trouve la puissance pour vivre cette nouvelle vie en Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cela? Je lève la main. Il y a une personne? Quelqu'un d'autre? Je vais demander à celui qui a levé la main juste de venir ici en avant et Donald et Alice sont rentrés ici pour prier avec ceux qui ont besoin de la prière. Juste venez-vous-en. Ne soyez pas gênés. Et on va prier, puis je pense que Guy, tu as fait quelque chose. Alléluia. Okay. Père, au nom de Jésus, merci. Guy, tu as quelque chose à dire avant qu'on prie?